Nous allons souligner un peu cette action de grâce ce matin en étudiant la parole de Dieu, même si nous continuons quand même l'étude dans Néhémie. Nous sommes rendus à Néhémie 5. On a vu les dernières études dans le livre de Néhémie que le peuple d'Israël, les Juifs, sont retournés dans leur terre, en Judée, et les Juifs revenus d'exil ont prêté main forte. Ils se sont tous joints pour reconstruire les murailles, reconstruire les murs de Jérusalem qui étaient tombés, qui faisaient en sorte que la ville et toute la nation étaient dans une grande détresse. Mais Dieu a conduit les choses par beaucoup d'événements dans sa providence pour permettre que les Juifs se rassemblent et reconstruisent les murailles, ce qui semblait vraiment invraisemblable. Les ennemis se moquaient d'eux, les méprisaient. Ils disaient, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de vous rebeller contre le roi, contre l'empereur? Pourtant, ils le faisaient sous la bénédiction de l'empereur, qui avait donné tout pouvoir à Néhémie pour administrer et rebâtir les murailles qui allaient protéger la ville et le temple en son centre. C'est un beau modèle d'unité, on a vu, hein? Ils se sont unis, chacun travaillait à sa place, chacun pour sa part, mais tous en commun, solidairement. Un beau travail d'équipe, un modèle de persévérance aussi devant l'adversité, parce que la menace était constante. Les ennemis complotaient contre eux pour les attaquer et, si possible, tenter de mettre fin à cette construction qui, du point de vue des ennemis, qui était une menace pour les nations autour. Mais ils avaient bien raison. Mais ils ont persévéré. C'était aussi, dans leur attitude, les Juifs sont aussi un modèle de foi, parce qu'ils croyaient en leur Dieu. Même, ils l'appellent le Seigneur grand et redoutable. Et ils se sont souvenus des actes puissants que Dieu avait faits dans le passé pour délivrer le peuple d'Israël, leur donner la victoire contre les ennemis. Et avec foi, ils ont continué à travailler l'épée d'une main, donc, ou à la ceinture. Ils étaient prêts à se défendre s'il le fallait. Mais Dieu a conduit les plans des ennemis à tomber en déroute. Et finalement, ils n'ont même pas été attaqués. Et ils ont pu reconstruire cette muraille. Donc, les murailles sont reconstruites. Le peuple semble visuellement dans une bonne santé, si on peut dire. Mais le passage qu'on va lire aujourd'hui montre que leur cœur, pour plusieurs, avait aussi besoin d'être construit, d'être rebâti. Ils avaient une maladie spirituelle dans le cœur pour plusieurs d'entre eux. Il y a même un péché qui va être dénoncer une forme de cupidité, d'égoïsme, de méchanceté même envers leurs frères, et tout cela, ce qui découle d'une ingratitude envers Dieu, qui leur a redonné le territoire, qui a permis, sous Esdras, que le temple soit reconstruit, maintenant qui permet que les murailles soient reconstruites, et pourtant, certains agissent d'une manière égoïste et méchante. Donc, c'est une ingratitude envers Dieu, un manque de respect pour Dieu, un manque de crainte de Dieu. Je vous invite à tourner dans Néhémie, chapitre 5. Donc, Néhémie, si vous ouvrez votre Bible au milieu, là, c'est absolument les psaumes. Vous reculez un peu avant Job, juste avant Esther. Néhémie, chapitre 5. Nous lisons en entier, 19 versets. Néhémie 5, verset 1. « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils, nos filles, nous sommes nombreux et nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes, nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient encore, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour payer le tribut au roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils. Mais voici que nous nous réduisons à l'esclavage. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Là, ici, c'est Néhémie qui parle en tant que narrateur. Il dit, « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des reproches aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? » Je convoquai à leur sujet une grande assemblée et je leur dis, « Nous avons racheté, selon nos moyens, nos frères, les Juifs, qui avaient été vendus aux païens. Et vous, vous vendriez vous-même vos frères? Et c'est à nous qu'ils seraient vendus? » Ils se turent, ne pouvant rien répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. » Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonoré par les païens qui sont nos ennemis. Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du moût et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, « Nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai la poche de mon manteau en disant, « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit, « Amen » et loua l'Éternel. Et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit comme leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple. Ils percevaient de lui du pain et du vin, outre 40 sicles d'argent. Leurs jeunes serviteurs même régnaient en maître sur le peuple. Mais je n'ai pas agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations alentour. On apprêtait chaque jour à mon compte, un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé des revenus du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Amen. Donc, il semble que le problème qui est soulevé durait depuis un certain temps. Ça durait peut-être depuis plusieurs années. La famine sévissait sur le territoire depuis un certain temps. Mais on dirait que le temps où les Juifs se sont rassemblés pour construire la muraille, et on va voir que ça a pris un peu plus de 50 jours, je ne me souviens pas du chiffre exact. Combien? 52 jours. Mais pendant ce temps-là, ceux qui étaient pauvres parmi le peuple, qui souffraient déjà d'une grande pauvreté, mais ne pouvaient pas s'affairer à trouver quelques revenus pour survivre. Donc, ils ont travaillé, ils ont joint l'effort collectif pour reconstruire les murailles de la ville, et ils étaient en train de mourir de faim. Donc, le temps passé à la construction les a empêchés, finalement, de trouver quelques revenus pour survivre, puis ils craignent maintenant pour leur vie. Ils sont dans une grande détresse. Donc, ce qu'ils demandent, finalement, c'est pitié. On veut juste manger. On veut juste du blé pour ne pas mourir de faim. C'est touchant comme demande. Et pourtant, les oreilles semblent bouchées et ils doivent aller plaider leur cause devant Néhémie. Ils plaident leur cause devant Néhémie qui, ici, pour la première fois, est présenté clairement comme le gouverneur. On s'en doutait, là, dans les 4 premiers chapitres. Mais là, on voit vraiment que l'empereur Artaxerxès, le roi, avait établi officiellement Néhémie, gouverneur de ce territoire-là, qui va devenir plus tard la Judée. Donc, en tant que gouverneur, c'est lui qui pouvait diriger, prendre des décisions, administrer. Donc, ils vont s'en remettre à lui, qu'il juge selon ce qu'il juge bon. Et ce qu'il dénonce, en fait, c'est qu'il y a de plusieurs qui ont dû, pour pouvoir emprunter de l'argent... Ils ont dû emprunter de l'argent aux Juifs qui étaient plus riches, les notables, les magistrats, ou ceux qui étaient déjà riches, les marchands peut-être. Ils ont dû emprunter d'eux simplement pour manger. Et pour cela, ils ont dû mettre leur propriété en gage. Ils ont dû hypothéquer leurs champs, leurs vignes, leurs maisons, leurs sources de revenus finalement. Et parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser, ils ont finalement tout perdu. Ça a été saisi par les plus riches. Et même si certains auraient pu dire, bon, au moins je vais garder un champ puis je vais pouvoir survivre de mes propres récoltes, de mon propre troupeau, bien, ce qu'ils récoltaient n'était pas suffisant pour payer les impôts à l'empereur, payer le tribut. Donc, ils étaient mal pris de toute façon. Donc, ils ont tout perdu, même ceux qui essayaient de se débrouiller par eux-mêmes. Et après avoir tout perdu, ne plus avoir de ressources, ils se sont résolus à vendre leurs fils et leurs filles comme esclaves. Donc, à mourir de faim. Bon, au moins, l'un d'entre nous va aller comme esclave. Et déjà, plusieurs de leurs filles étaient devenues servantes, esclaves. En entendant cela, Néhémie devient très en colère. On peut le comprendre. Une sainte colère, mais on l'imagine sortir le fouet comme Jésus, là, renverser les tables. Il est très en colère face aux Juifs riches, ceux qui sont en position d'autorité, ceux qui ont la capacité de changer la situation, mais qui, au contraire, ont profité de la détresse de ceux qui sont pauvres. Ils ont profité de leur pauvreté, de leur détresse, de leur manque de ressources pour s'enrichir eux-mêmes. C'est pas honteux. Et ils ajoutent à leur cupidité, leur méchanceté, le fait qu'ils laissent leurs frères souffrir de la faim. Et si la situation perdure, ils vont mourir ou ils vont devenir tous esclaves. Donc, Néhémie rassemble les riches et il leur fait de sévères reproches. La première chose qu'il leur reproche, c'est « Vous prêtez avec intérêt à vos frères? » Ça veut dire vous leur prêtez une somme et lorsqu'ils essaient de vous rembourser, vous leur demandez de rembourser plus, comme en dédommagement du fait que vous n'avez pas pu jouir de cette somme pendant un certain temps. On connaît le principe des intérêts. Mais on comprend que même les intérêts, c'était exagéré. C'est ce que l'expression, c'est l'usure, des prêts usuraires, qu'on dirait aujourd'hui. En plus. Et en plus, qu'il leur reproche, c'est vos propres frères qui sont devenus vos esclaves, vous seriez prêts même à les vendre à des païens, à d'autres peuples, pour en tirer bénéfice? Ça nous rappelle Joseph qui a été vendu par ses frères, hein, et c'était choquant comme situation. Mais là, c'est comme tous les riches là, qui s'assemblent et qui ont cette pensée honteuse de vendre leurs propres frères comme esclaves. Et Néhémie leur raconte que lorsqu'il habitait encore à la capitale, à Suse, il était haut placé, il était échanson du roi, et on imagine qu'il avait un bon salaire, il avait une fortune, il avait des serviteurs, des confrères. Et lui et ses confrères se sont donnés comme mandat de racheter les serviteurs, les esclaves juifs lorsqu'ils en rencontraient, pour les libérer de l'esclavage. Et j'imagine que plusieurs d'esclaves affranchis ont pu retourner dans leur patrie avec eux. Donc il leur dit, moi là, je me suis fait un honneur là, de racheter ces esclaves-là avec mon propre argent. Et aujourd'hui, vous feriez l'opération inverse, vous vendriez vos frères, puis nous, on va devoir aller courir dans l'Empire perse pour les racheter, pour les ramener. En réalité, même, en plus de faire du tort à tous ces gens-là, ils font du tort à leur propre gouverneur qui veut leur bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Wow, il ne prend pas des gants blancs ici pour leur dire. Il dit, bah, vous devriez peut-être réfléchir qu'il y a peut-être moyen d'améliorer un peu votre attitude. Non, ce que vous faites est mal. C'est péché. Ce n'est pas bien. Ne devriez-vous pas plutôt marcher dans la crainte de Dieu? Là, il leur parle encore là où ça fait mal. En fait, il dénonce qu'en agissant de la sorte, ils ne se sont pas souciés de Dieu. Si c'était soucié de Dieu, ils se seraient rappelés ses commandements et n'auraient pas fait toutes ces choses-là. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu pour ne pas vous déshonorez vous-même devant les païens qui vous regardent. Vous êtes censé être le peuple de Dieu. Vous vous déshonorez vous-même par une conduite que même les païens, qui n'ont pas la loi de Dieu, condamnent. Même les païens, là, qui n'adorent pas l'Éternel, le Créateur, savent très bien que ce que vous faites est mal. Et vous vous déshonorez à leurs yeux. Et donc, par conséquent, vous déshonorez votre Dieu. Même les païens savent reconnaître qu'une chose comme cela est mal, est affreuse. Les notables, en entendant cela, ne trouvent rien à répliquer. Ils gardent le silence. Ce n'est pas dit, mais j'imagine qu'ils étaient honteux, en train de réfléchir, là. Mais lorsqu'ils déclarent, lorsqu'ils leur disent que vous faites est mal, on voit ici qu'il n'est pas en train d'entrer dans un débat d'opinion. Ce n'est pas selon ses propres valeurs personnelles qu'il déclare ça. Parce qu'il se réfère à la crainte de Dieu. Ce que vous faites est mal parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. En disant cela, il se réfère finalement à la volonté de Dieu qui est déclarée dans la loi qu'il a donnée à son peuple. Dieu a déclaré dans la loi de l'Ancien Testament ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il apprécie, ce qui est là en horreur, ce qui est une abomination à ses yeux. Et il y a beaucoup de passages qui parlent justement de l'argent dans la loi, de comment traiter ses frères, en particulier ceux qui sont en détresse, ceux qui souffrent de la pauvreté. Par exemple, dans Exode 22, on lit « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, » il dit « de mon peuple, » au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier. » Les créanciers, là, ils vont dire, bah, en affaires, il n'y a pas d'amis, c'est les chiffres. Mais tu n'agiras pas comme cela envers ton frère. Tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Tu lui prêtes pour un temps, lorsqu'il sera capable de te rembourser, il va te rembourser, c'est tout. Tu ne te sers pas de sa situation de détresse pour ton bénéfice, pour t'enrichir. Tu lui prêtes pour lui donner un coup de main seulement. Si tu prêtes en gage le vêtement de ton prochain, c'est possible que pour toucher ta corde sensible ou pour te donner une petite assurance, il te donne son vêtement pour te dire, je te le dis là, c'est sûr que je vais te rembourser, la preuve c'est que je te laisse mon vêtement en gage là. Je vais récupérer mon vêtement, donc n'aie pas de crainte, je vais te rembourser. Donc si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est clair, hein? Car c'est probablement sa seule couverture. C'est le vêtement qu'il a sur la peau, dans quoi coucherait-il? Et s'il crie à moi, à Dieu, je l'entendrai, car je fais grâce. Donc, si ce n'est pas toi qui prends soin de lui, moi, je vais prendre soin de lui. Donc, tu vas avoir agi contre ma volonté. On a un passage similaire aussi dans Lévitique 25. Il dit, « Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras. » Même si c'est quelqu'un qui vient de se joindre au pays, même si c'est un immigrant ou un résident temporaire, afin qu'il vive avec toi, tu ne tireras pas de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, tu ne lui prêteras pas ta nourriture à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que je sois votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi-même, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Même s'il devient à ton service, tu ne le considéreras pas comme ton esclave, ta propriété. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire, et il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira de chez toi, lui et ses fils avec lui. Il retournera dans son clan, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. Wow! Est-ce qu'il y a 56 façons d'interpréter ce passage-là? C'est vraiment clair, la volonté de Dieu. Comment ils ont pu oublier ça? Ça vaut la peine qu'on lise un dernier extrait. Je vous invite à tourner avec moi dans Deutéronome 15, un autre extrait de la loi. Deutéronome, donc c'est le cinquième livre de la Bible, chapitre 15. Verset 1, Deutéronome 15, verset 1. « Au bout de 7 ans, tu observeras la règle de la remise. » Et voici en quoi consiste la remise. Tout créancier, donc toute personne qui aura prêté, qui aura fait un prêt à son prochain, en fera la remise. Donc, à la 7e année, à chaque cycle de 7 ans, si tu as prêté, finalement, tu annules la dette. Tu rends le prêt. Il ne pressera pas son prochain et son frère. Quand on aura publié la remise en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras la remise de ce qui t'appartiendra chez ton frère. On voit l'insistance ici de traiter les Juifs comme les frères, le peuple de Dieu. Il y a une distinction même avec la manière dont on traite les autres. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras la remise de ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Car l'Éternel te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, pour que tu en prennes possession, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur. Tu ne fermeras pas ta main devant le frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main. Tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire « la septième année, l'année de la remise approche ». On voit que Dieu connaît les cœurs. Hein. Il sait d'avance quel truc qu'on pourrait trouver. On est rendu à la sixième année, je ne prêterai pas parce que je vais être obligé de rembourser tout de suite. Là. Je vais être obligé d'annuler. Je vais attendre au début du cycle de 7 ans. Ça va lui donner au moins 7 ans pour me rembourser. Et Dieu dit, tu ne fais pas ça. Là. Même si la date de la remise arrive, là, ton frère est dans le besoin, tu vas lui prêter. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux, dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. Mais c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Lorsque tu l'en renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, que l'Éternel, ton Dieu, t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. C'est intéressant, on a vu dans les 3 passages qu'on a cités, et celui qu'on vient de lire dans Deutéronome, que lorsque Dieu donne ses consignes, lorsqu'il leur donne dans la loi d'être bon et généreux envers les frères, il fait un lien avec ce que lui-même fait pour son peuple. Il rappelle combien lui est bon. C'est ça la raison, en fait. Dieu donne la raison pour laquelle il veut qu'on... La raison pour nous motiver à être bon envers nos frères, c'est de se souvenir comment lui a été bon. Et il rappelle qu'il les a libérés de l'esclavage en Égypte. Ils étaient esclaves, ils souffraient de cela par des travaux pénibles, ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient pas de lieu, de culte pour se rassembler. Dieu les a libérés, leur a donné un pays, il a choisi une ville, Jérusalem, où il a établi son temple pour vivre au milieu d'eux. Et il les a bénis richement. Il leur a fait grâce, même en oubliant parfois leurs dettes lorsqu'ils criaient à lui. Un Dieu qui aime, et il leur demande d'aimer leurs frères en retour, en suivant son modèle, finalement. Les riches, lorsqu'ils entendent ça, lorsqu'ils entendent les reproches de Néhémie dans cette grande assemblée, j'imagine qu'ils ont le cœur touché, parce qu'ils répondent unanimement, « Nous allons le faire. Nous allons rendre leur dette. » Ils s'engagent même devant les sacrificateurs, ils le jurent, qu'ils vont tenir parole à effacer la dette de leurs frères, à rendre même l'intérêt qu'ils ont perçu. Même ici, il est question de 1%, j'ai peut-être même 1% par mois. Ça voudrait dire un 12%, peut-être cumulatif même. C'était beaucoup. Donc, ils vont rendre l'intérêt qu'ils ont perçu. Ils vont rendre leur propriété à ceux qui les avaient perdus, qui s'étaient fait saisir. Et ils vont libérer ceux qui étaient devenus esclaves. Et après avoir dit ça, ils ne sont pas tout tristes de perdre tout ça. Ils louent l'Éternel ensemble. Ils disent « Amen » et ils louent l'Éternel. Donc, ils montrent par là, finalement, qu'ils veulent revenir sur le bon chemin, là, dans la crainte de Dieu, et que leur geste de libération est une action de grâce envers Dieu. C'est par reconnaissance envers Dieu qu'ils le font. Ce sont vraiment des gestes d'action de grâce. Et ils le font le jour même. Ils tiennent parole. La fête d'action de grâce, justement, a été instituée pour nous souvenir collectivement, au moins une fois par année, des bienfaits de Dieu, le remercier, lui être reconnaissant. Et une manière de le faire, c'est comme nous l'avons fait ce matin, c'est de chanter ses louanges, de prier, de le remercier, de partager même des sujets de louanges, des bienfaits avec nos frères et sœurs. Je dis, hey, tu sais pas ce que Dieu a fait pour moi cette semaine, ce mois-ci, cette année. Et de rappeler les bienfaits de Dieu. C'est bon le chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Il faut s'arrêter pour y réfléchir, mettre les bienfaits de Dieu devant nos yeux et on est émerveillé devant la bonté de Dieu, sa protection envers nous, sa providence. Et une action de grâce, en fait, c'est une réponse à cette bonté-là de Dieu. On est ému de voir la bonté de Dieu envers nous et on veut lui répondre en lui offrant, finalement, ce qui va lui faire plaisir. Mais qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Qu'est-ce qu'il souhaite qu'on lui offre en action de grâce? Beaucoup de choses, mais la principale, c'est que nous nous aimions. Hier, on s'est joint à Barnabé Fungep pour le consoler pour le décès de sa maman. On était plusieurs ici à la consoler dans un service mémorial. Et il partageait que sa mère souvent disait à ses enfants, « Aimez-vous, là. » Elle, ce qui était le plus précieux pour elle, là, c'est que ses enfants s'aiment, qu'ils ne soient pas dans la chicane, qu'ils soient dans l'harmonie. Et s'il le faisait, c'était comme un cadeau qu'il faisait à elle. C'est ce qu'elle voulait voir. Mais Dieu, c'est notre papa, et il veut que ses enfants, dans sa famille, s'aiment, prennent soin les uns des autres, qu'ils soient unis en harmonie. Qui ne laisse pas l'un d'entre eux crever dans son coin, là. Qu'on ait de la compassion, de la pitié, qu'on soit plein d'amour. On lit dans 1 Jean 4, 19 à 21, « Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Parce que Dieu nous a aimés, en retour, nous voulons aimer. Par amour pour lui, nous aimons nos frères. » Si quelqu'un dit « J'aime Dieu, mais qu'il haït son frère », c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons d'ailleurs de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Peut-être que c'est arrivé que vous avez prêté à un frère, puis il tarde à vous rembourser. Mais pourquoi ne pas simplement annuler sa dette? Ça va non seulement le libérer, ça va même vous libérer, vous, d'un tracas. Dans 1 Corinthiens 6, verset 7, Paul dénonce le fait qu'à l'église de Corinthe, il y avait des frères qui tenaient tellement à ne pas perdre leur bien, qui tenaient tellement à prétendre une soif de justice, mais en réalité, c'est qu'ils ne voulaient pas supporter un dommage, là, qu'ils étaient prêts même à se traîner en cour, aller devant le juge pour récupérer leur dû, pour se plaindre même d'un frère chrétien, le traîner devant un juge qui n'est pas chrétien pour qu'il juge entre eux. Et Paul leur dit, « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? » C'est la fin du monde là, que vous souffriez une injustice? « Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller par amour fraternel? » Peut-être que vous avez consacré beaucoup de temps à un frère ou à une sœur qui semble ne jamais être en mesure de vous le rendre. On dirait que c'est comme un sens unique. Et alors? Est-ce qu'on sert nos frères dans le but qu'ils nous servent? Bien sûr, il existe, on le sait, des gens qui sont du type profiteur, qui vont siphonner les ressources des frères. Et le Nouveau Testament nous indique comment mettre fin à ce comportement néfaste. Mais ce sont des exceptions. Règle générale, on est exhorté à une grande générosité, à une compassion, à une pitié. Comme Dieu l'est envers nous. Dieu prend soin de nous, pas seulement quand on le mérite. En réalité, on doit avouer qu'on ne le mérite pas souvent. Mais Dieu prend soin de nous, même lorsqu'on n'est pas un bon garçon ou une bonne fille. Il continue d'avoir pitié pour nous. Et souvent, même, on sent qu'on a fait quelque chose de mal, puis on devrait quelque chose pour, on devrait faire quelque chose pour se racheter un peu, comme pour faire pénitence. Mais Dieu a effacé notre dette. On n'a même pas besoin de faire pénitence pour obtenir la grâce de Dieu. Elle est disponible en tout temps. Son pardon est disponible en tout temps. Et le mot pardon, même souvent dans le Nouveau Testament, c'est le mot qui signifie effacer la dette. Dieu nous donne une liberté infinie en lui. Mais ici, Néhémie ne s'est pas contenté de faire des reproches. Il n'a pas seulement fait des reproches aux magistrats, aux notables, d'avoir abusé de leur pouvoir. Il est devenu un modèle lui-même. Lui-même se présente comme un modèle à suivre. Lui et ses serviteurs, il dit, ils ont prêté de l'argent et du blé à leurs frères. Prêter, il ne faut pas voir que c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, on l'a lu tantôt, Dieu recommandait. Prêter, c'est bon. Mais là, dans un élan du cœur, Néhémie, et pour donner l'exemple, il dit, moi et mes serviteurs, là, tout ce que nous avons prêté aux pauvres du pays, nous annulons aujourd'hui leur dette, ou leur rendons, nous effaçons leur dette. Donc, les prêts que nous avons faits, finalement, nous les transformons en dons. Et là, ici, on comprend que Néhémie, c'est comme s'il ouvre une parenthèse en tant que narrateur pour nous expliquer comment il fonctionnait, lui, en tant que gouverneur. Parce qu'il parle d'une durée de 12 ans, mais c'est sûr que dans le récit, c'est pas un ordre nécessairement chronologique, là. Ça commence avec sa venue pour la reconstruction des murailles, mais il nous dit comment il agit pendant les 12 ans où il a été gouverneur. Et une chose frappante, c'est qu'il n'a jamais usé de ses droits pour s'enrichir aux dépens de ses frères. Le poste de gouverneur d'une des provinces, là, des provinces de l'Empire perse, était convoité par plusieurs parce que c'était l'endroit rêvé pour s'enrichir, acquérir du pouvoir, de la gloire et surtout de l'argent. Acquérir même des propriétés à revenus et devenir un roi là, sous l'empereur. Mais Néhémie dit qu'il n'a jamais fait cela. Il n'a jamais usé de son droit pour s'enrichir parce qu'il l'aurait fait aux dépens de ses frères. Il l'aurait fait en appauvrissant davantage le peuple. Il n'a pas, comme les gouverneurs avant lui, exigé des taxes au peuple. Pas d'impôts à verser aux gouverneurs. Ils avaient toujours l'impôt à verser à l'empereur. Ils se sont soumis à cette règle, mais lui n'a pas exigé d'impôts pour son poste. Et il a lui-même relevé ses manches, là. Il a lui-même travaillé à la reconstruction de la muraille. Donc, il n'a pas montré qu'il était comme dans un rang social élevé puis qu'il ne se mélangeait pas au petit peuple. Il était avec le peuple. Et tous ses serviteurs aussi ont mis la main à la pâte. Il n'a acquis aucun champ, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris un champ à l'époque, c'était une source de revenus. Donc, il ne s'est pas procuré d'autres sources de revenus. Finalement, il est arrivé là sans propriété, il est demeuré sans propriété. Il avait seulement la maison du gouverneur où il habitait. Il n'a pas pris de champ parce qu'il aurait privé quelqu'un d'autre d'avoir ce champ-là comme source de revenus. Il les a laissés au peuple. Régulièrement, on comprend, même j'imagine à tous les jours, environ 150 hommes, des nobles, des magistrats, et ça mange ça, 150 hommes, ils mangeaient à sa table. Et sans compter tous les visiteurs diplomatiques des nations autour qui venaient le visiter. Et c'est lui qui payait tout de ses poches. Malgré cela, il n'a jamais exigé d'impôts, parce qu'il voyait que le peuple n'avait pas les ressources suffisantes pour contribuer. Donc, finalement, on comprend, là, d'une vision plus large encore, Néhémie a quitté son poste privilégié auprès de l'empereur comme échanson, où il avait sûrement accumulé une fortune. Il est allé à Jérusalem vraiment pour servir son peuple et il a dépensé sa fortune sans utiliser son poste comme une source de revenus. C'est tout un exemple. On voit que Néhémie même s'est exigé à lui-même plus que ce qu'il a demandé au peuple. Et il n'a pas fait ça pour être populaire, pour recevoir les honneurs du peuple. De qui est-ce qu'il souhaitait avoir l'approbation? Des gens du peuple, des notables, de l'empereur? Il dit au verset 19, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Ici, il ne faut pas comprendre qu'il fait tout ça simplement pour être récompensé, mais il fait ça parce que c'est l'approbation de son Dieu, du Créateur, qui est important pour lui. Il ne fait pas ça pour plaire au peuple, mais vraiment pour être approuvé de Dieu. C'est même la conclusion de tout le livre. Quand on lit à la fin du livre de Néhémie, là, ça se termine comme ça. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » C'est son désir de plaire à Dieu qui l'a poussé à tant d'altruisme. Quel bon conducteur pour le peuple de Dieu. Et on comprend finalement que c'est une image. C'est un des derniers personnages de l'Ancien Testament qui nous amène finalement à Jésus-Christ. Jésus qui a quitté le poste le plus élevé qui existe, la gloire auprès de son Père. Toute la richesse, la fortune qu'il avait pour venir sur terre comme simple serviteur. Il n'a même pas établi une business, une entreprise comme charpentier. Vraiment, il vivait sans logis. Il dit, le Fils de l'homme n'a même pas où poser la tête, sans propriété. Il a été celui qui a aidé ses frères partout où il allait. C'est lui qui a nourri, qui a aidé les pauvres, les malades. Et l'acte suprême, c'est qu'il a finalement donné sa vie. Quand on donne sa vie, là, c'est le don le plus précieux qui existe. Il l'a donné pour ses frères, pour nous. Dans 1 Jean 3, on lit, « À ceci, nous avons connu l'amour. » Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est que lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Et la réponse à cela, quand on en prend conscience puis qu'on est ému, c'est nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bon, ça serait étonnant que nous ayons un jour à mourir littéralement pour nos frères, quoi que ça peut arriver. Mais de notre vivant aussi, donner notre vie, c'est donner de tout ce que l'on a, de tout ce qui est précieux. Pour certains, ce qui est le plus précieux, c'est justement l'argent qu'ils ont chèrement gagné à la sueur de leur front, après des années d'études, et certains même accumulent plusieurs diplômes et un bon travail, et ils travaillent fort. Ils disent, cet argent-là, je l'ai gagné, là. Je ne l'ai pas volé à personne. Pourquoi je le donnerais? Donc, pour certains, c'est là où est le défi, de donner de l'argent. Pour d'autres, c'est de donner de leur temps. Le temps, c'est précieux. Bon, c'est vrai que pendant le confinement, on avait beaucoup de temps, là. Ça nous a fait réaliser qu'on en avait pas mal. Mais quand même, ça demeure une chose que, pour certains, c'est la chose la plus difficile à donner. Pour d'autres, c'est de donner de l'attention. Les gens ont besoin d'attention, ont besoin de savoir qu'on prie pour eux. Et pour certains, ont une vision plus égocentrique. On a tous une petite part d'égocentrisme, là, c'est sûr, mais on sait qu'il y a des choses qui nous coûtent, là. Mais donner notre vie, c'est d'être prêt à donner cela, lorsque Dieu nous le demande. Lorsque Dieu met sur notre route un frère, une sœur qui est dans le besoin, qui a besoin d'argent, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de temps, qui a besoin de service, besoin de conseils, besoin d'exhortation. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, ni avec la langue, mais en action et en vérité, donc sincèrement. C'est facile de dire qu'il faut être généreux, mais ce qui est moins facile, c'est de sortir de notre portefeuille. Et Jésus a établi dans l'Église des gens qui devraient servir de conducteurs et de modèles. Comme il avait établi Néhémie au temps du peuple de Dieu ou de la reconstruction des murailles, il a établi dans l'Église des gens qui sont censés être les modèles pour l'Assemblée, c'est les anciens, les pasteurs, qui doivent même s'exiger pour eux plus qu'ils ne demandent à l'Assemblée, normalement. On lit dans 1 Pierre 5, « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu, ce n'est pas votre troupeau, c'est le troupeau de Dieu, mais faites-le paître, prenez-en soin comme des bergers, des pasteurs, le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. » Ni pour un gain sordide, un gain égoïste, là, un gain qui est aux dépens de vos frères, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le pasteur des pasteurs, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. La motivation est la même. Le pasteur va persévérer à être généreux, à être altruiste, s'il attend l'approbation de Jésus, du pasteur des pasteurs. S'il cherche l'approbation des hommes, il va dévier, il va tomber. C'est choquant. En tout cas, c'est choquant pour moi lorsque j'entends parler que des pasteurs s'enrichissent aux dépens des membres de leurs églises. Certains, même on entend, à cause de l'évangile de prospérité, là, ils promettent que si on donne à l'Église généreusement, et c'est plus que généreux, là, certains vont aller jusqu'à tout donner leur paye, et même s'endetter, emprunter à la banque pour donner à l'Église, parce qu'ils promettent que s'ils font cela, Dieu va les rendre riches, millionnaires. Mais à cause de ça, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et où va cet argent-là? Dans les poches de ceux qui font ces promesses. C'est scandaleux, et ils vont rendre compte à Dieu. Mais ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont des modèles dans l'Église. En fait, chacun de nous, on est, à un moment donné ou à un autre, ou dans une situation d'influence sur nos frères et sœurs, peut-être responsable d'un ministère dans l'Église. Ou peut-être que vous avez conduit quelqu'un récemment à la foi en Jésus. C'est un nouveau croyant, une nouvelle croyante. Vous êtes un exemple pour elle, pour lui. Si vous êtes parent, vous devriez être un modèle pour vos enfants de générosité. Les enfants vont reproduire votre comportement. Si vous n'êtes pas capable de vous départir d'un bien qu'il faut absolument que vous le vendiez, même à un frère, vos enfants vont faire comme vous. Mais si vous êtes prêt à donner vos choses, les enfants vont faire comme vous aussi. Soyez des modèles de générosité, de compassion, d'humilité. Donc, comment on peut résumer ce qu'on a vu ce matin? C'est par amour pour Dieu, par crainte de Dieu, pour vouloir lui être agréable, être approuvé de lui. Mais on veut lui faire pour lui offrir des actions de grâce. Et la meilleure action de grâce, celle que Dieu veut voir, c'est l'amour pour les frères, l'amour pour ses enfants, pour ses fils et ses filles. Donc, pour action de grâce, prenons l'engagement d'offrir au Seigneur des actes généreux. Peut-être aujourd'hui ne sera pas la bonne occasion, je ne sais pas, mais prenons un engagement sincère là, de le faire envers ceux et celles que Dieu a mis sur votre route, qui ont besoin d'aide, qui comptent sur vous. Donnons de notre argent, de notre temps, donnons notre attention et, une chose très importante, donnons notre pardon. On refuse parfois de pardonner à quelqu'un parce qu'on sent qu'il doit avouer ses torts, il doit être corrigé pour qu'il y ait une justice qui soit faite. Pardonner, c'est qu'on efface la dette. Il n'a pas à payer finalement pour le mal qu'il nous a fait, pour son offense. Je le libère de cela. C'est beau de voir les premiers chrétiens qui se sont convertis après le jour de la Pentecôte et qui ont formé la première église à Jérusalem, la première assemblée. On lit dans Actes 4, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. » C'est le Saint-Esprit qui les a poussés à agir comme ça. Tout était en commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il y avait des pauvres parmi eux. Il y a des pauvres qui se sont convertis, beaucoup de pauvres. Mais ils n'étaient pas dans une situation de détresse. Ils n'étaient pas indigents parce que leurs frères prenaient soin d'eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres et on distribuait à chacun selon qu'il avait besoin. On peut être généreux en donnant directement à un frère, une sœur qui a besoin d'aide. Parfois, même si c'est possible, on peut donner anonymement. On glisse une enveloppe dans sa sacoche. Sans rien attendre en retour, sachant que Dieu le voit. On peut donner au fonds de secours de l'Église. Il y a un fonds de secours qui existe. Et même si vous allez sur le site Internet, quand vous faites un don, vous pouvez choisir les offrandes régulières, mais vous pouvez choisir fonds de secours. C'est un fonds qui est administré à part, en toute confidentialité, par les anciens qui vont donner des montants à des frères, des sœurs dans l'Église qui ont des dépenses non prévues, par exemple, suite à un décès ou à une perte d'emploi ou qu'un manque de revenus qui n'était pas prévu non plus. Les situations, c'est sûr qu'on vit dans un bon pays où il y a un système d'aide sociale, de chômage. Donc, on n'a pas besoin nous-mêmes d'avoir un grand système d'aide sociale puis d'aider autant que le chômage peut le faire. On paye nos impôts pour ça, d'ailleurs. Mais ça ne comble pas tous les besoins. Il y a des besoins très ponctuels que parfois on peut venir secourir un frère, une sœur. Et continuons de donner aux offrandes générales de l'Église, mais en étant conscient qu'on le fait par amour pour nos frères, par amour pour Dieu. On dit souvent qu'on donne pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, l'avancement du royaume. Mais en fait, lorsqu'on donne, on donne pour que nos frères continuent d'être édifiés, qu'ils continuent à grandir dans le contexte de l'Église locale. On donne pour que l'Église continue d'évangéliser, pour que les brebis, même qui sont perdues, qui ne sont pas encore dans la bergerie, puissent être ajoutés. Donc, on le fait, faisons-le consciemment, sincèrement, par amour pour nos frères. Et Dieu, qui le voit, va être content de cela. Il va prendre soin de nous. Et sondons nos cœurs pour voir s'il n'y a pas une part d'égoïsme. Qu'est-ce qui fait obstacle? Il y a une part de cupidité. Et prions que Dieu l'enlève, et il est capable de le faire. Il peut transformer le cœur le plus endurci, même si c'est peut-être une mauvaise habitude qu'on a depuis des années, peut-être depuis notre naissance. On a chacun de nos faiblesses. Dieu est capable de nous transformer, de rendre tout homme, toute femme généreux, généreuse à la ressemblance de son Fils. Et que les gens qui regardent l'Église, comme à l'époque de Néhémie, les autres nations regardaient ce que les Juifs faisaient là. Et leur témoignage est important. Mais les gens du monde regardent les chrétiens, regardent comment nous agissons les uns envers les autres. Donc, prions et faisons en sorte que les gens qui nous regardent voient que nous nous aimons, que nous prenons soin des autres et qu'ils honorent Dieu. Et qu'ils croient, finalement, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il soit sauvé. Amen.